Allons nous gaver d'amour jusqu'à en crever.
Oui.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour.
Je vous demande pardon.
Est-ce que vous l'aimez?
Je t'aime.
Et qu'est-ce que je peux bien répondre à ça?
Bonjour Clara. Bonjour Flore et bienvenue dans Rom-Comment, le podcast qui t'explique comment, mais comment sont construites tes rom-com préférées. Et après 8 heures de setup et 3 mois de confinement, on se retrouve enfin.
Si vous saviez comment on a galéré, nous ne sommes actuellement pas dans la même pièce, ni dans la même ville, ni dans la même région. Nous sommes, cela dit, dans le même pays. Mais nous sommes donc à distance et on essaie de vous faire un petit épisode à distance. Et on espère de tout cœur que ça va marcher. On est désolé d'avance pour vos oreilles s'il y a le moindre souci.
Oui, voilà, désolé, mais on tenait à faire cet épisode spécial confiné. Donc on a choisi le trope du huis clos. Flore, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un trope?
Oui, bien sûr. Alors un trope, c'est un schéma narratif récurrent dans la fiction.
Que c'est joliment dit.
Et en effet, aujourd'hui, on a décidé de prendre le trope du huis clos. Et pour ça, on a choisi un film qui n'est pas tout à fait une comédie romantique. Mais on vous a demandé sur Instagram si vous étiez d'accord. Et nous avons donc choisi un film culte.
Un film si culte.
Voilà, une histoire d'amour, peut-être l'histoire d'amour la plus culte du cinéma, sans exagérer. Roulement de tambour, Clara, s'il te plaît. On a choisi Titanic.
Oh my god, ce jour est finalement arrivé. C'est pourquoi on a commencé ce podcast, finalement.
Clairement, ici, on est des grandes fans de Titanic et on a très hâte de vous en parler.
Exactement, alors je vais commencer. Je suis déjà désolée pour... ma voix, parce qu'en fait, écoutez, c'est la saison des allergies. Voilà, ça va pas du tout. Bon. Titanic. Mon premier souvenir de Titanic, c'est une VHS qu'aujourd'hui, nous possédons toujours. Et nous continuons à regarder, parce qu'on a un lecteur VHS chez mes cousines. Marie-Justine, que j'embrasse si elle passe par ici. Et en fait, pour moi, Titanic, c'est vraiment la première relation que j'ai eue à l'amour au cinéma. Donc, la première fois que j'ai vu vraiment... Une si grande histoire d'amour, on va dire, un truc qui vraiment te prend aux tripes et tout. Et je trouve que pour notre génération, Titanic, c'était un peu le film ça passe ou ça casse. Il y avait ce stéréotype qui est un petit peu genre un peu sexiste, mais bon, de genre ah, toutes les filles elles pleurent dans Titanic et les mecs ils détestent et tout. Alors que bon, nous, mes frères aimaient autant que mes cousines, mais bon, ça, la société ne veut pas que je le dise.
Clairement, j'ai vu mon père pleurer devant Titanic, je le dis, voilà. Je l'assume.
Voilà. Et je trouve que en le revoyant en plus, c'est vraiment c'est très cliché, on peut dire tout ce qu'on veut sur James Cameron, que c'est vrai que c'est un réalisateur à l'américaine, il amène les larmes et tout. Mais c'est si bien fait. Enfin évidemment quand il y a le budget, c'est facile de bien faire, mais c'est extrêmement bien fait, c'est très maîtrisé, j'adore ce film et je l'ai revu avec grand plaisir.
Oui, alors parce que c'est vrai, on n'a pas précisé, mais en parlant de budget, pour la petite fiche technique de Titanic, même si c'est un film qu'on ne présente plus, ça a été donc, comme tu l'as dit Clara, réalisé par James Cameron, c'est avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, et le budget c'est 200 millions de dollars, ce qui moi quand j'ai vu ça sur Wikipédia, ça m'a paru pas énorme en fait, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais à l'époque c'était le plus gros budget pour un film, et c'est d'ailleurs un film qui a fait un box-office de 2 milliards de dollars.
C'était donc, 97 son année de sortie, c'est ça?
Oui, c'est ça, ça date, hein. Ça,
ouais, c'est ça.
C'est ça, commence à dater, mais je suis assez d'accord avec toi, c'est un film qu'on prend plaisir à re-regarder, même si, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long, mais en même temps, on se fait embarquer dedans. C'est un film que j'aime beaucoup aussi, mais je dois quand même faire une confession avant qu'on rentre dans le vif de ce podcast et dans le sujet. J'aimerais m'excuser d'avance à tous nos auditeurs. Vous pensiez peut-être que j'étais insupportable avec Jude Law et avec Edouard Cullen, que j'étais une petite fangirl. Mais tout ceci n'était qu'une préparation. Une préparation pour ce que vous vous apprêtez à entendre et à vivre, qui est mon amour profond pour Leonardo DiCaprio, que tous mes proches savent est extrêmement haut. J'ai pleuré le jour où il a eu un Oscar. J'ai même regardé l'émission, la cérémonie jusqu'à 5h du matin dans un lit en tenant la main de ma meilleure pote et en pleurant quand il l'a eu. Je suis vraiment très attachée et très attirée par Leonardo DiCaprio. Donc aujourd'hui, Clara sera la seule personne qui va pouvoir faire des commentaires intéressant sur ce film, je serai juste en backup pour vous dire à quel point il est beau. Voilà.
C'est vrai qu'il est très beau, hein. On va pas se mentir, il est dans mon top 3 des hommes pour lesquels je serais hétéro.
Mais quand même, ne crachons pas non plus, s'il vous plaît, sur Kate Winslet. Pour qui
Kate Winslet, c'est le top 1 des femmes que j'aime. Voilà. Pour
laquelle... Clairement, un sandwich avec les deux dans l'eau froide, ça ne m'aurait pas dérangé.
Voilà. Bon, dis donc, elle se lâche, ce petit plan.
S'il y a des enfants, n'écoutez pas ce podcast, ça va partir trop vite, trop loin. mais bon, allez, sur ce, je pense que nous pouvons rentrer directement dans le film.
Je suis désolé, Fabrizio. Que ne sont les mafas fanculo, tu as parié pour la
fric. Je suis désolé, tu ne vas pas revoir ta maman d'ici un long moment. Parce qu'on va en Amérique.
Foule les enfants.
On rentre dans Titanic avec un procédé cinématographique qui s'appelle un petit flashback, enfin le début d'un flashback. Donc on démarre avec des images du Titanic qu'on pourrait croire d'époque, mais non, c'est James Cameron qui a tout retourné, figurez-vous. Puis on enchaîne, alors moi déjà, sachez que la première phrase de mes notes c'est « ça commence avec la musique et tout, écoutez, j'ai envie de pleurer
». Moi, ma première phrase de notes c'est « j'ai la flemme et je pense à Léo pour tenir bon ».
Voilà. Voilà, deux personnalités. Ce podcast est vraiment une dualité incroyable.
C'est vrai. Iconique duo.
Vraiment. On commence donc avec l'histoire d'un chercheur, une équipe de chercheurs qui plonge au fond du Pacifique pour trouver. Non, Pacifique, n'importe quoi.
Oui, c'est j'étais là. Oui, j'étais là. Attends, mais je suis pas très bonne en géographie, mais j'ai eu un petit doute. Oui, c'est de l'Atlantique, il me semble. Vu que les icebergs dans le Pacifique.
Bienvenue dans Géocast. Podcast spécial géographie. Au fond de l'Atlantique pour essayer de retrouver un bijou très cher perdu, on pense, dans le Titanic.
Voilà.
Donc le Titanic a coulé depuis fou des années.
Oui, il le dit, ça fait 84 ans, je crois.
Ouais.
Voilà. Et oui, on vous fait pas trop l'histoire de l'intro en détail parce que vous connaissez très sûrement de toute façon ce film. Mais il y a quand même une petite anecdote sur l'intro que j'aimerais partager. On commence pas directement avec le bateau dans Titanic et c'est quelque chose qui a coûté à une amie à moi que j'embrasse qui écoute ce podcast, Pauline. Cette pauvre Pauline, quand elle avait 13 ans, je crois, au collège en tout cas, on lui a dit qu'elle allait regarder Titanic. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ses amis ont mis le film d'horreur espagnol Rec à la place. Et comme en fait, elle n'avait jamais vu Titanic, elle n'arrêtait pas de dire « Mais il est où le bateau ? Il est où le bateau ?» Ils étaient là « Non, mais ça arrive, ça commence dans un immeuble, mais c'est normal et tout, t'inquiète, ils vont faire les décombres après. » C'est juste à partir du moment où il y a eu la mamie mutante qu'elle a compris qu'elle s'était fait arnaquer. Mais voilà, je pense juste à cette pauvre
adolescente. Elle n'a pas compris que c'était en espagnol ?
Oh, peut-être qu'il l'avait mis en VF, je sais pas, mais c'est juste, j'imagine, cette pauvre adolescente devant Titanic qui se fait avoir. Et voilà, Pauline, je t'embrasse, j'espère que tu as pu voir Titanic depuis, ou au moins que tu l'as regardé pour cet épisode.
Oui, on t'embrasse, Pauline, et puis bah courage avec la thérapie, du coup.
Clairement.
Donc, ce diamant, en fait, s'avère n'être toujours pas dans le Titanic, donc le chercheur est un peu frustré, mais les chercheurs ont dégoté autre chose, un dessin au fusain.
Voilà, on aimerait bien.
Dans l'eau depuis 84 ans.
D'ailleurs, la marque du fusain utilisé, parce que c'est quand même très impressionnant. Le fusain est donc dans l'eau depuis 84 ans, no problemo. Mais c'est grâce à ce dessin qu'on retrouve Rose.
Voilà.
Qui font venir.
Une vieille dame. Hein.
Ouais, elle a 100. Ils le disent, elle avait 17 ans au Titanic, là c'est 84 ans plus tard. Je ne suis pas bonne en maths, faites votre compte tout seul.
Je t'ai vu essayer vraiment dans ma tête, j'ai fait waouh, elle vraiment elle est courageuse.
Ouais, non, donc on passe à autre chose, voilà. Mais tout ça pour dire qu'elle arrive sur le bateau et elle va raconter à toute l'équipe son anecdote. Concrètement, ils sont tous en mode il est où le diamant ? Et elle, elle est là. Vous voulez savoir la première fois que j'ai fait de l'amour ? Je vais vous raconter.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'explique pas trop, pour ceux que si jamais quelqu'un a vraiment jamais vu Titanic, c'est qu'elle reconnaît le dessin à la télé, où elle dit j'arrive en hélico. Voilà.
C'est ça, avec toutes ses valises et tout, trop une queen.
Je crois qu'elle a des poissons rouges, non ?
Oui, elle avait ses poissons rouges, trop chou. Mais en tout cas, elle commence à raconter cette histoire, et d'ailleurs, dès le début, c'est vraiment une storyteller de ouf. Elle lance une espèce d'envolée lyrique sur le Titanic, mais en deux secondes, j'y étais, les yeux fermés, j'étais là. Je sens le vent sur mes cheveux.
Tu fais bien de sentir le vent, puisqu'on arrive sur les quais de... Je crois qu'il part de Liverpool, Titanic, si je ne...
Et on rencontre notre première protagoniste de la relation amoureuse, Rose. Rose, jouée par Kate Winslet, Rose qui a 17 ans. Alors moi, je sais pas toi, mais moi, 17 ans, c'était absolument pas ma tête. Hein. Loin de là.
J'étais vraiment très laide.
Bah, moi en fait c'est juste qu'à 17 ans j'avais l'air d'en avoir 13 déjà, Kate Winslet on dirait qu'elle en a 30, Mais elle arrive et elle, en fait, elle va monter sur le bateau avec sa famille et son fiancé. Donc, c'est l'introduction pour la première, le premier morceau du duo.
Puis... Voilà. Et ce qui est très important à savoir, c'est que le personnage de Rose, c'est le personnage principal de l'histoire du Titanic. C'est drôle parce qu'on a eu ce débat-là en cours de scénario quand j'étais en école de ciné. Le prof nous a dit, c'est qui le personnage principal du Titanic, Jack ou Rose ? Et on a débattu pendant 2 heures et à la fin, il nous a dit, évidemment que c'est Rose, c'est elle qui raconte. Et on était tous là, mais pourquoi vous l'avez pas dit le début ? Il était genre, je voulais juste vous voir brûler. Et c'était un moment très intense. Évidemment, j'étais déjà Team Rose.
Est-ce que le héros, c'est pas juste le bateau, finalement ?
Ouais, c'est drôle en plus parce qu'en anglais, on dit elle.
Oui.
Donc genre, il l'appelle vraiment comme si c'était une personne, c'est marrant. Mais en tout cas, cette introduction, c'est une leçon de cinéma pour les nuls. C'est très simple, on la voit arriver de par-dessus son chapeau. Elle a un grand chapeau, un grand carrosse, des domestiques. On voit que c'est une femme de la noblesse. On voit que son mec est atroce et qu'elle n'a aucune alchimie avec lui. Mmh. Son mec s'appelle Cal. C'est relevant pour plus tard, et que sa mère est une poupée de porcelaine.
Oui, et en fait, on voit très bien que ce bateau, elle le dit, d'ailleurs, il y a une phrase qui est assez jolie, ce bateau qui, pour tout le monde, est un symbole d'espoir, pour elle, en fait, c'est juste un truc qui la ramène en prison. On comprend très vite que c'est un mariage, pas d'amour, mais d'argent. On l'apprend de thunes, hein. Sur le tard, voilà.
J'ai trouvé ça très drôle parce que sur le quai, on répète, genre il y a des figurants et même le mec de Rose qui répète 500 fois « Il est insubmersible ? Ah bon ? Mais oui ma chère, bien sûr qu'il est insubmersible. » Il y a les enfants qui demandent « Papa, c'est vrai qu'il va jamais couler ?» Tout le monde fait « Oui, oui, bien sûr. » J'étais genre « Bon, c'est peut-être un petit peu fort de café là, on sait tous très bien comment ça se finit cette histoire. »
Oui, c'est ça, ils voulaient bien faire comprendre que c'est vrai que la réputation du Titanic, mais stay tuned, ça va y avoir un petit plot twist, on vous apprend rien. Et donc elle, c'est sa vie. Vie très différente du second protagoniste qu'on voit arriver. Cette scène d'ouverture, alors ce qu'il y a écrit dans mes notes, mon dieu, point, Léo, point, il est si sexy, je fonds, touche de clavier en bordel. C'est juste, ces plans, on le voit, c'est ça, il y a juste son regard avec ses cartes de poker. Et c'est comme ça qu'on découvre. Alors autant Rose, elle doit aller, elle a plein de valises et tout ça. Lui, c'est une autre vie, il gagne donc ses places du Titanic au poker et il y va avec son meilleur pote italien, Fabrizio.
Fabrizio, le meilleur personnage du Titanic.
Clairement, il mérite justice. Mais donc, voilà, c'est ainsi, il arrive au Titanic, dans le Titanic à la dernière minute et les portes se ferment, le huis clos commence... Mais du coup, en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant pour revenir sur le huis clos quand ils arrivent dans le Titanic. À la fois, ils présentent le bateau, mais en fait, le Titanic, c'est un espèce de microcosme de la société où t'as deux mondes bien différents. Rose qui arrive dans sa super suite, dans ses appartements avec Cal, son fiancé, etc. Et Léo qui, lui... Enfin, Jacques, qui va dans la cale avec tous ses best buddies. Ils sont, en fait, c'est les pauvres. Vraiment, c'est les pauvres et les riches, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis on peut voir que Rose, elle personnalise son intérieur. Donc, moi, je me disais, putain, ça devait être quelque chose à l'époque de s'embarquer comme ça pendant des jours, enfin, voire des semaines de voyage. Parce que nous, maintenant, si on veut relier Londres à New York, c'est relativement simple en quelques heures. Mais là, c'est vrai qu'ils devaient se faire une petite maison à eux, quoi, quand on avait les moyens, évidemment. Et Rose, par exemple, elle a des tableaux de Picasso dans sa suite. Enfin, elle personnalise vraiment son lieu. Et c'est ce qui est, je trouve, qui l'enferme encore plus dans sa catégorie et son personnage. C'est qu'elle se crée un cocon autour d'elle, alors que Jack, c'est vraiment l'inverse. C'est le personnage, l'esprit libre, quoi. Il se pose. C'est même pas sa cabine, d'ailleurs. C'est la cabine du mec à qui il a
gagné les places de poker. Ouais.
Et je crois que c'est deux mecs nordiques qui sont là, genre, il est où Sven ? Genre, les pauvres, leur pote, il est pas venu.
Non, mais c'est vrai que, d'ailleurs, petite parenthèse, quand elle s'installe avec ses tableaux, donc tu vas me dire qu'il y a les Demoiselles d'Avignon de Picasso qui ont coulé dans le Titanic, ça, je crois que c'était un peu... je trouve ça très bizarre parce que c'est quand même assez connu que James Cameron a vraiment fait beaucoup de recherches de faits historiques pour que son histoire soit très vraie et très plausible. Et ça, c'est juste... Enfin, je sais pas, il s'est perdu un petit moment, mais bon, on le pardonne.
Mais c'est pas une variation ? Je crois que c'est ça l'histoire.
Parce que je sais pas, parce qu'elle dit quand même que c'est genre, en gros, elle sous-entend qu'elle a déniché un petit tableau de ce nouveau peintre. Et Cal fait d'ailleurs une remarque en mode, mais Picasso, personne va le connaître et tout. Il y a même un Monet qu'après Jack trouve et dit genre, oh, t'as un Monet, c'est magnifique. C'est peut-être des reproductions, qui sait, mais. Voilà.
Je sais pas, de toute façon, je suis bête en art, donc c'est Flore l'experte là-dessus.
Eh bah, moi, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, deux secondes après, il y a Léo qui est à l'avant de la pointe du bateau, les bras écartés, et qui dit « Je suis le maître du monde ». Et là, j'oublie les histoires de faux raccords ou je sais pas quoi. Je suis sur le bateau, je suis avec lui et je suis à fond.
J'ai noté, moi, que même si on est sur un bateau, on voit que... Enfin, on est sur un bateau, le bateau, il n'y a pas pire comme huis clos. C'est-à-dire qu'autour de toi, comme alternative, il y a la mort dans la mer ou... rien. Et on voit que le personnage de Jack est vraiment plus libre que Rose parce qu'on le voit en extérieur, tout le temps. Il est tout le temps sur le pont. On le voit très, très rarement dans sa cabine. Mmh. Alors que Rose, elle est toujours montrée en intérieur. Et on voit la scène suivante, c'est un repas que son mec fait tout pour elle. C'est-à-dire que il décide de ce qu'elle va manger, il décide de quand elle mange, etc. Alors que bon, au contraire, Jack, il s'en fout un peu, il vit sa life, quoi.
Ouais.
Donc, pour le personnage de Rose, l'étau se resserre, on va dire. Ouais.
Et surtout, les fois, parce que juste avant le repas, si je me trompe pas en termes de temporalité, il y a la scène où il la voit pour la première fois, justement, sur le quai. Enfin, sur le quai du bateau.
Non, c'est pas juste
le quai,
après. Pardon.
Ah, c'est juste après, ok, pardon. Parce que justement, quand il la voit, même quand lui, il est dehors, lui, il est en train de dessiner, il est genre hyper ouais. chill, et elle marche très droit, bien tenue. Et d'ailleurs, la première fois qu'il la voit, il y a en fond la musique de Céline Dion, qui est un peu leur thème amoureux toutes les premières
Alors,
fois.
Alors, c'est pas Céline Dion, c'est James Horner, le compositeur, qui a d'ailleurs, je crois, gagné un Oscar pour cette musique. Mais ravie de penser que c'est Céline Dion.
Moi, j'entends tout, tout, tout. Je suis là, c'est Céline. Mais heureusement que tu es là pour rectifier le tir. Mais du coup, c'est un thème, je le disais, parce qu'en fait, c'est une musique qui va revenir plusieurs fois. Toute la première fois, il va y avoir ce fond sonore. C'est leur thème amoureux, quoi.
Et je trouve que cette scène où Jack voit Rose pour la première fois, il y a cette espèce de sensation hyper familière de, tu sais, quand t'es en vacances dans un lieu fermé, genre dans un camping ou dans un truc comme ça, ou dans un gîte ou un truc comme ça, et que tu vois quelqu'un de genre très beau, voilà, un amour de jeunesse, quoi, un crush de jeunesse en tout cas, et tu sais que tu vas le revoir parce qu'il n'y a qu'un seul supermarché dans ce camping, il n'y a qu'un seul sanitaire, donc t'es obligé, enfin tu sais que tu vas le recroiser, et il y a cette espèce de truc où tu te dis, oh, mais il faut que je lui parle, mais c'est obligé, c'est genre, it's meant to be, et je trouve que c'est un peu, enfin, au camping, on parle du Titanic, hein, mais je trouve que c'est un peu cette dynamique-là de, je pense qu'il la regarde et il se dit, putain, dans la vraie vie, j'aurais aucune chance avec cette meuf, mais là,
mais pourtant mais exactement, et en même temps tous les potes de Jack qui le voient la regarder lui disent genre mais laisse tomber, ça c'est une fille de la haute, et c'est rigolo parce qu'en fait dans le Titanic dire de la haute c'était littéralement de la haute parce que t'es dans les quais du haut ouais. alors que les pauvres sont dans les quais du bas, mais lui tu sens elle lui a tapé dans l'œil et ça va pas tarder, ils vont se retrouver bientôt pour ce qu'on appelle le trope du, en anglais c'est le meet cute, c'est la rencontre des protagonistes, donc meet cute, c'est-à-dire la rencontre mignonne. Alors là, en termes de mignonité, c'est pas exactement la vibe.
On est sur un petit suicide hein, quand même.
Oui, clairement, elle se... Parce que c'est vrai qu'on dit le Titanic, c'est un huis clos, mais tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, Clara, c'est le... Rose, elle est elle-même dans un huis clos qui est en fait ouais. le monde des riches, et elle est dans un repas, et là, elle se rend compte à quel point elle est enfermée. Et en fait, elle décide que ce huis clos métaphorique et total du Titanic, du bateau physique, en fait, juste elle peut pas et elle le supporte pas et elle veut se barrer. Sauf que bah, tu peux pas te barrer à part si tu sautes dans l'eau.
Voilà, du coup, elle décide au calme, pépouze, de faire un petit suicide. Mais évidemment, Jack va la sauver parce que lui, il fume sa guinze à l'arrière du bateau. Mais donc, il faut savoir, on va parler en termes nautiques parce que c'est le podcast du Capitaine Haddock. La proue, c'est l'avant du bateau et la poupe, c'est l'arrière. Donc là, on va parler de poupe.
Et oui, Luc, qu'est-ce qu'il fout à la poupe du bateau à fumer sa clope par moins 10 degrés ? On ne sait pas. Mais heureusement qu'il est là, parce que du coup, il la voit. Elle a quand même donc enjambé la barrière.
Elle est prête
à sauter. Et c'est rigolo, il y a un passage que j'avais jamais remarqué, mais en fait, quand il s'approche d'elle pour lui dire genre « Mais revenez, Miss » et tout, elle lui dit « Ne vous approchez pas ou je vais lâcher. » Genre, en anglais, c'est « I let go », qui est en fait la dernière phrase qu'elle lui dit « Je ne vais jamais lâcher ». qui lui demande, genre... Enfin bref, ouais. J'étais là, oh, tout se rejoint, c'est cyclique, c'est waouh, la boucle est bouclée.
Non mais c'est très bien écrit, hein. On peut dire ce qu'on veut sur ce film, ouais. Que c'est facile et tout, mais oui c'est facile, mais c'est tellement bien fait. Enfin,
Titanic. Et ce qui est très bien fait dans Titanic, encore une fois, c'est Leonardo DiCaprio, parce que dans cette scène, j'ai donc écrit dans mes notes... Il est vraiment casse-couille, mais il est si beau. SOS, j'arrive pas à me concentrer. Quand il hausse les sourcils, j'ai envie de pleurer. Voilà. Vraiment très compliqué pour moi. Non, mais parce qu'il y a cette scène. En fait, un truc que j'avais aussi oublié et que j'ai vraiment remarqué en re-regardant le film, le personnage de Jack est vraiment hyper rigolo.
Ouais, 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 il fait des blagues et tout.
Il fait vachement de blagues. Et là, il essaie à moitié de lui dire oui, j'ai. Enfin, elle essaie de le casser sur un truc. Et il lui dit genre ah, bah désolé, je savais pas ou je sais pas quoi. Il hausse les sourcils en mode tu m'as saoulé. Et il est juste. Ses expressions faciales et tout, il est vraiment trop rigolo. Mais c'est un bon suicide watcher parce que il arrive à convaincre Rose. Enfin, il la convainc pas vraiment émotionnellement, mais il la convainc physiquement puisqu'il lui dit.
Il la rattrape en fait. Hein.
Non, mais même avant, en fait, elle veut se retourner. C'est que, en fait, il arrive à la faire revenir dans le huis clos en quelque sorte parce qu'il lui dit ah ben l'eau elle va être très froide quand même. Ce qui me fait trop rire, la meuf, elle avait pas réfléchi à ça avant.
c'est ça. On est au... enfin bon, bref.
Et tu vas connaître Rose, elle va la connaître la température de l'eau. Attendez quelques heures et ça va arriver. Hein.
Je pense que il y a à ce moment-là, en tout cas dans l'écriture du personnage qu'on nous montre, il y a cette espèce de truc de coup de foudre où elle voit que ce mec-là, il est différent, genre il est pas de son monde, et donc elle est genre ah, il y a peut-être une alternative en fait à la vie qu'on m'a dessinée, je trouve ça drôle du coup que en fait la libération de Rose se fasse dans un huis clos, parce que littéralement l'émancipation du personnage va se faire au sein du bateau. Alors qu'elle peut pas fuir et tout, et il y aura plein de moments après au cours du film où elle va vouloir faire des grandes échappées et tout, quitter son mec, mais en fait elle le recroise à genre 5 reprises.
C'est vrai qu'elle est. On va en reparler après, mais il y a des moments où moi je suis là, mais pourquoi tu veux fuir maintenant? Tu es encore coincée. Enfin, attends au moins la fin du truc quoi. Mais non, pour l'instant elle est coincée, elle est recoincée vu qu'elle retourne sur le bateau, elle est sauvée par Jack, et il y a une espèce de quiproquo où en fait elle manque de tomber, elle crie, il la rattrape, il la ramène, et en fait la police du bateau débarque pour trouver Rose qu'on vient d'entendre crier, la jupe relevée avec Jack sur elle. Et c'est là que j'ai noté que ce film n'est absolument pas réaliste, parce qu'en 2 secondes on arrête le mec. J'étais là, malheureusement dans la vraie vie il en faut un peu plus, mais là il est menotté en 2 secondes et Dieu merci Rose le sauve.
Et en fait il est invité un peu par pitié quoi, enfin surtout pour le faire rire, par Cal son fiancé, ouais. Au dîner du lendemain.
Parce que oui, Rose a dit oui c'est lui qui m'a sauvé, et c'est horrible d'ailleurs, Cal essaie de payer Jack avec genre un billet de $20 en mode tiens t'as sauvé ma go, bah merci Cal, c'est hyper romantique tout ça.
Ensuite on a une scène clé mais pour la narration plutôt que pour notre trope, puisque Cal va offrir le cœur de l'océan, donc un joyau porté par Louis XVI je crois, à Rose. Donc c'est un gros collier bleu, il est très moche ce truc
de ouf. Enfin, et d'ailleurs il y a une erreur bizarre de traduction où en fait il le dit même dans la scène, je sais pas si tu regardes, si t'as vu en anglais, il dit genre ça s'appelle le cœur de la mer.
Le cœur de la mer, oui.
Et après il dit ah donc oui, ça veut dire genre the heart of the ocean, et je suis là bah non, l'océan et la mer c'est pas la même chose, encore une fois podcast géographie les gars, on vous apprend, mais c'est pas la même chose.
Géocast va vraiment devenir mon truc préféré, mon running gag. Et donc on passe direct au lendemain où Rose a invité Jack sur le pont des Richoux. Donc ils se retrouvent, ils se baladent et tout, et pour moi c'est une scène clé parce qu'elle le remercie, elle lui dit merci de m'avoir sauvée, mais surtout merci de m'avoir parlé parce que je me sentais vraiment oppressée, je me sens prisonnière, tu vois, elle est vraiment contrite comme ça, et en fait déjà ils ont une alchimie incroyable, ouais, genre
mon Dieu, tellement.
C'est fou. C'est fou. Il faut savoir que Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sont très très amis dans la vraie vie. Et, ils sont jamais sortis ensemble,
oui.
Contrairement à ce que tout le monde veut. Mais je trouve ça fou et je trouve ça génial que ce duo de potes ait pu jouer un couple comme ça. Et c'est, je pense, ce qui a aussi fondé leur amitié sur ces bases-là. Et je trouve qu'ils ont une alchimie dans cette scène qui est incroyable parce qu'en plus, il se fout gentiment de sa gueule, Lydia, bah alors, machin. Et elle a une phrase où elle dit, bah, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et en fait, elle se retourne Elle dit, ah mais non, je m'en vais pas, parce que bah, y a nulle part où aller, je suis chez moi. Et en fait, c'est tellement, ça témoigne tellement de sa situation dans ce bateau, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'en aller. Ouais. Enfin, elle est là où elle devrait être, donc et bah, elle reste.
Oui, mais clairement, ça l'arrange bien. C'est vrai que c'est ce que tu as très bien expliqué tout à l'heure sur le huis clos, c'est qu'en fait, ils sont obligés de se revoir parce qu'ils sont dans un huis clos. Ouais. Sinon, en fait, il l'aurait sauvé, on lui aurait donné un billet de $20 et le mec, on l'aurait jamais revu. Mais c'est vrai que cette scène, je suis d'accord, l'alchimie est ouf. Et j'ai noté dans mes notes Kate Winslet, mais quelle actrice, quoi. Enfin, toute cette scène, quand elle raconte qu'elle se sentait prisonnière et tout, j'étais à fond. Et j'aime trop quand elle lui dit, ouais, c'est vous, côté du bateau, t'as qu'à partir. ça chafouine de ouf, et le pire c'est que ça continue à chafouiner au dîner.
Ah bah alors là j'ai noté littéralement le dîner c'est gaulerie, parce que en fait le dîner ça va être typiquement un peu le truc des tuches, en mode t'as les pauvres versus les riches, et genre là Cal, le mec de Rose, il attend que ça, il est genre yes 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 mama bring it on, ça va être trop drôle, le pauvre il va nous faire rire et tout. Ouais. Sauf que Jack a croisé la route de Molly, une amie de Rose et de sa mère, qui en fait a récemment hérité de sous et qui a un fils qui fait à peu près les dimensions, enfin les dimensions, la taille de Jack. Et donc elle va l'habiller comme un riche.
Oui, et il a cette scène. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et
il est très beau.
C'est vraiment rigolo parce que il y a ce côté où il essaie de prendre les codes. En fait, on le voit. Encore une fois, comme on a dit, c'est genre des huis clos, mais au sein du huis clos, il y a plusieurs huis clos. Et lui, il va pénétrer un autre huis clos, le huis clos du monde des riches, qu'il ne connaît pas du tout. Et il va vraiment essayer. Et d'ailleurs, je me suis dit, c'est là que tu vois aussi que le fiancé de Rose n'a vraiment pas peur de Jack et se dit que c'est vraiment un petit péquenot pauvre, parce qu'il délaisse complètement Rose et il laisse Rose, genre c'est Jack qui prend son bras, il l'amène au dîner. Et au dîner, tout le monde est hyper désagréable. Avec Jack, enfin tout le monde essaie de l'humilier en fait quand même.
Ben moi je trouve pas, au contraire je trouve que par exemple, enfin il s'en sort vachement bien parce que la mère et Cal essayent de l'humilier de ouf, mais en fait les autres, genre Monsieur Guggenheim et tout, parce que lui il est avec sa maîtresse déjà, il peut rien dire, mais ils sont hyper, enfin au contraire je trouve que dès que Jack il dit un bon mot ou un truc comme ça, c'est un peu la réaction du riche quand il voit un prolétaire sympa, il fait oh bah, non mais lui ça va, c'est un bon, tu vois, non c'est, mais c'est rigolo, vrai. Laissez-le parler.
Mais c'est parce que clairement, c'est ce que t'as dit, en fait au début on essaie de l'humilier, mais Jack est hyper fort, il rebondit. Et clairement, il raconte sa vie qui est tellement loin du huis clos que ses riches connaissent, parce que lui, il est en mode ma vie, c'est au jour le jour, je me réveille, je sais pas ce qu'il y a dans ma poche, je sais pas où je vais, je suis libre et vive la vie. Et il est vraiment hyper. Enfin, pour eux, ça paraît hyper excentrique en fait, son mode de vie. J'ai repéré une scène aussi que je n'avais pas repérée avant. Là, c'est vraiment, tu sais, comme je suis hyper concentrée, il y a une espèce de métaphore que je trouve rigolote. Qui est en fait, pendant qu'il fait son super speech, Jack en mode moi je suis libre et tout, il prend le briquet à Cal. Et en fait, à la fin, Cal se rebarre de la salle parce qu'il va dîner, enfin il va boire du whisky avec tous les autres riches. Et il dit à Jack, genre, ah bon, bah toi, désolé, mais tu peux pas venir. Et en fait, il recasse un peu et il re-rend le briquet. Enfin, il y a une espèce d'un échange de briquets qui se passe entre les deux où t'as l'impression qu'à un moment, c'est Jack qui a le feu dans sa main et en fait, Cal le reprend en deux secondes en mode bah en fait non moi je suis super fort et tu es une petite merde. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que Jack clairement il a autre chose à faire qu'aller boire du whisky et fumer des cigares, vu que comme tu l'as dit il emmène Rose dans la cale.
L'emmène en fait faire la fête avec les Irlandais, donc contre Tommy qui est un autre personnage qui bah, va mourir hein, plus tard, on va pas vous mentir, de toute manière ne vous attachez à personne dans ce film. Je trouve que cette scène elle est géniale d'un point de vue réalisation aussi, parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a de la musique, ils vont danser, ça va être sympa, ils vont se rapprocher, et en fait il y a que des plans très rapprochés de eux, sur leur visage, sur leurs mains, sur la main de Jack qui vient hop enserrer la tête de Rose, et en fait on voit qu'il y a plus du tout cette distance sociale, cette espèce de politesse entre ce truc qu'ils avaient avant, parce que bon bah ils sont entourés de gens etc, ils sont même pas assis à côté hein, pendant le dîner qu'on a mentionné plus tôt. Et là vraiment ils sont dans une atmosphère super exiguë parce que c'est tout petit, enfin il y a plein de monde, tout le monde sue et tout, et je trouve ça relativement bien montré dans la réalisation.
Mais ça a l'air clairement d'être le feu, cette teuf.
Ah ouais, de ouf.
Et c'est vrai que ce qui est drôle aussi, c'est qu'au début on a vu Rose, elle est un peu relou quand même, enfin elle est un peu bitchy, elle est un peu insupportable et tout, parce qu'elle est très aigrie en fait de sa vie. Et dès qu'il l'amène dans la fête, c'est plus la même, quoi. Elle se métamorphose, elle est drôle, elle boit, elle danse, elle discute avec tout le monde et tout. Et t'as clairement envie de faire la fête avec eux, ça a l'air d'être la best stuff.
On se réveille tout en douceur avec un petit déjeuner en grosse gueule de bois, on connaît tous. Et Rose, elle doit expérimenter un sacré niveau.
Là, ça va être une gueule de bois émotionnelle, pas que physique.
Ah là là, oui.
Puisque concrètement, son fiancé Cal, si vous vous souvenez bien, pète un câble et lui dit, en fait, on t'a vu faire la teuf dans la cale. Tu es ma fiancée. Il pète la table, il se barre en courant. Et d'ailleurs, encore une fois, Kate Winslet, quelle actrice, je trouve cette scène hyper touchante parce que du coup, il casse toute la table et il y a la servante qui vient ramasser et elle a dit genre non, mais désolé, c'est ma faute et tout. Et la servante est en mode mais non, c'est pas ta faute. Enfin, et elle, tu sens qu'elle est vraiment paniquée par ce qui vient de lui arriver, quoi, parce qu'elle est face à cette espèce de violence de la part de son fiancé qui est vraiment un bon gros connard, voilà, je pense qu'on peut le dire.
D'ailleurs, avec ma cousine, on l'appelait l'homme au crayon quand on était petite parce qu'il a des traits de crayon, il a un maquillage super bizarre, on dirait un pharaon, c'est trop chelou.
Oui, c'est vrai, il est un peu, c'est vrai, j'avais oublié, mais il a un petit côté eyeliner, je sais pas, peut-être qu'à l'époque c'était en vogue, tout comme d'ailleurs les corsets, vu qu'on a juste après une scène,
oh là là, niveau
aussi métaphore, c'est pas forcément très subtil, mais c'est beau.
Oui, encore une fois, c'est fait avec des gros pieds, mais c'est bien fait, quoi. Enfin,
ouais, c'est la mère de Rose qui vient la voir et lui nouer son corset et qui lui dit maintenant tu arrêtes de voir ce petit garçon là, ce petit Jack le rigolo là, parce que on est des femmes. Oui, c'est ça, c'est Rose, elle lui dit mais c'est hyper injuste que j'ai besoin de me marier à Cal pour sauver notre situation financière, et la mère est
bien sûr que
c'est injuste, nous sommes des femmes.
Il faut un petit peu expliquer ça, scénaristiquement on appelle ça un time lock. Donc c'est-à-dire que à la fin du voyage, Rose épouse Raquel et donc elle et sa mère pourront vivre puisque sa mère lui apprend que en fait son père a dépensé toute leur fortune et tout ce qui leur reste, le père est mort, tout ce qui leur reste c'est leur nom. Et donc grâce à son nom de la haute société, elle a pu arranger un mariage pour sa fille avec Cal. Mais tant qu'ils ne seront pas arrivés à New York et que Cal n'aura pas épousé Rose, elle marche sur des œufs parce qu'à tout moment ils peuvent perdre leur statut social. Et devenir tout simplement des gens du prolétariat. Donc dans le système scénaristique, ça s'appelle un time lock parce qu'en gros ça veut dire que il y a une limite de temps. Elles sont dans une boucle de temps qui va être très importante pour l'histoire et qui définit un petit peu leur storyline.
Mais d'ailleurs, en parlant, merci pour ce point cinéma. Moi, je vais parler du point méchant garçon qui est, je comprends vraiment pas Cal et je ne comprends pas ce qu'il trouve à Rose, parce qu'en fait Rose avec Cal elle est extrêmement froide, très désagréable. Alors oui, elle est très jolie et elle est de la haute société.
Ah, mais je pense que c'est un truc de pouvoir, tu sais, genre elle lui appartient,
d'ego. Ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est un truc d'ego.
Voilà. On repasse sur le pont pour une atmosphère bien plus détente, où Jack va aller à la salle de dîner, où ils sont tous en train, les riches sont en train de chanter pour la messe youpi. Et en fait, on voit qu'il est à l'aise et tout, il salue l'investisseur du bateau, il salue des gens dans les couloirs, donc lui, il a frayé son chemin dans la société comme ça. Évidemment, on lui refuse l'accès à la salle.
Oui, en fait, on va essayer de les séparer. En fait, on me dit qu'il n'a plus jamais le droit de voir Rose. Et bizarre ça, vu qu'on a dit à Rose. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est toujours un huis clos. Genre, comment tu veux interdire des gens de se voir qui sont juste tous coincés dans un bateau, clairement. Ça ne va pas marcher.
Ça ne va pas marcher. Ensuite, c'est encore pas notre trope, mais scénaristiquement, c'est important de savoir qu'au détour d'une conversation, Rose apprend qu'il n'y a des canaux de sauvetage que pour la moitié des passagers du Titanic, donc en cas de, je ne sais pas, par exemple un iceberg, la majorité des passagers en fait décéderaient. Voilà.
Et qu'ils n'arrêtent pas de dire mais on n'a pas besoin des canaux parce que notre bateau ne va jamais couler. Encore une fois, restez une heure devant votre télé et vous allez voir. Mais dans ces moments là nous, les bateaux, les canaux, tout ça, on oublie bien vite parce que Jack revient et se déguise pour en fait arriver sur le pont des riches et subtiliser discrètement Rose pour lui parler. Et cette scène est quand même très rigolote parce qu'il lui fait une espèce de longue déclaration. C'est le point de déclaration de la comédie romantique. Bon, encore une fois, c'est un drame, mais voilà. Et encore une fois, il la connaît depuis 2 jours. Et il est déjà en mode « tu sautes, je saute, je peux pas te laisser, Rose ». Il dit cette phrase, il dit « ils te tiennent en otage, tu es coincé, ça va te tuer ». Et en fait, la métaphore de ce film que je n'ai compris que des années plus tard, en fait, le huis clos dans Titanic, c'est les conventions sociales.
Bravo, oh my god. Alors là, on a atteint le layer de l'oignon voilà. Qui nous achève.
C'est ça, pour l'analyse très poussée et très fine et très subtile que tout le monde avait vu sauf moi. Mais du coup, Rose reste dans ses conventions, puisqu'en gros, elle dit à Jack, bah, bye, quoi.
Je trouve que dans cette scène, c'est assez fort, parce que Rose, c'est la dernière fois qu'elle va essayer de prétendre. Elle va dire, non, mais j'aime Cal, je suis bien dans ma vie avec Cal et tout. Et Jack, il est genre, alors, déjà, très mauvaise actrice, n'importe quoi. Et ensuite, il lui dit, moi, je peux pas te sauver, il y a que toi, en fait, qui peut sortir de cette situation. Et j'étais là, punaise, je crois que, dans l'enfance, c'est la première fois qu'on me dit, c'est pas le mec qui va sauver la fille, c'est la fille qui va sauver elle-même et finir avec le mec. Incredible.
Mais ça, on va en reparler après, mais c'est vrai qu'un truc que j'adore dans Titanic, c'est qu'en fait, Rose, c'est une femme vachement forte. Ouais. Et même après, on va le voir après dans les scènes romantiques et voire sexuelles, c'est plutôt Rose qui est dans la position de leaderuse.
De ouf.
Et Jack, lui, il est clairement in love. Il a des emojis, là, tu sais, le petit emoji avec les yeux qui sont des cœurs. Ça, c'est Jack pendant tout le film. Mais là, pour l'instant, il est stoppé. Il est saoulé, d'ailleurs. Moi, j'étais là, mais comment tu peux dire non à Léo, quoi ? Moi, clairement, j'étais là, mais attends, mais Flore, moi, je plaque toute ma
Flore,
vie.
Flore, you know.
Non, je m'en fous. T'as vu ce qu'elle a en face au crouton, là ? Non, bon, ok.
Elle, bon, de toute retour... manière, Flore, elle va te donner raison.
Oui, bah bien sûr que tu pouvais pas, mais bien sûr. Attends, t'as vu, là, ces espèces de petites bretelles, là ? Oh my God. Bon, je me reconcentre, on y retourne. On est dans un énième repas, dans la énième salle. Et c'est la
qu'est-ce
scène
qu'on
du...
bouffe sur le Titanic, hein ? Oh là là, c'est pire qu'un courrier.
C'est le pire que le confinement, en fait. J'ai appelé ça la scène du snap. Duquel snap ?
La snap de ouf.
En voyant une scène qui est genre, pareil, métaphore gros sabot, mais qui fonctionne. C'est elle voit la petite fille, c'est ça ? Elle voit la petite fille qui...
Ouais. La petite fille, elle, en fait, qui est assise avec sa maman. Et ça, c'est de la haute société encore. Donc, c'est, je crois que c'est au moment du thé. Et en fait, elle l'a fait asseoir. Elle met son chapeau. Elle lui dit, non, tu prends pas cette cuillère-là. Tu prends cette cuillère-là et tout. Et en fait, la gamine, elle a, je sais pas, 6 ans, tu vois. Et Rose, elle se dit, ah, c'est ça, ma vie ? Non, ouais. C'est pas ça,
et
ma vie.
Elle s'en va. Et là. Attendez, voilà, je suis concentrée. J'essaie de pas hurler pour pas faire saturer le micro. Mais elle va à l'avant du bateau. Une nouvelle fois, il y a son père à l'avant du bateau.
Alors, oui, moi, alors ça, désolée, n'importe quoi. Hein.
Tout le monde fait la file indienne pour faire sa photo Instagram à l'avant du bateau. Mais bon, voilà. À l'époque, là, t'as le best coucher de soleil de l'histoire du cinéma. Et là, il lui fait, attends, je vais te montrer. Vous connaissez tous cette scène. Et c'est nié. Mais qu'est-ce que ça fonctionne ? Il la met devant, il lui dit, ferme les yeux, ouvre. Elle ouvre les yeux, il y a la musique de... Du coup, t'as dit que c'était qui ? C'est pas Céline Dion.
C'est James Horner, mais c'est Jack hein, qu'elle va rejoindre à l'avant de la proue, parce que la Flore, elle s'emballe, mais l'histoire, c'est qu'elle va voir Jack et qu'elle lui dit « J'ai changé d'avis. »
Ah, par moi, j'étais direct en mode « Elle est en haut, elle vole, elle s'aime. Enfin, » Je m'emballe, c'est l'émotion. Heureusement, encore une fois, que Clara est la tête pensante de ce podcast.
Non, mais disons que quand il y a Leonardo DiCaprio, c'est difficile.
Je sais pas. Mais là, c'est est-ce qu'il existe une scène de baiser de cinéma plus culte ?
Non, franchement, elle est même dans Love Actually, donc je vais vous dire, moi j'adore.
Et c'est rigolo parce que, paradoxalement, ils sont dans un espèce de huis clos de l'enfer, mais dans ce baiser, ils sont libres.
Ah, ils
parce qu'ils sont
si
vraiment... alors, par contre, moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi il n'y a pas plus de vent que ça.
Ouais, franchement, ça a l'air d'aller, hein, son brushing, il tient...
Mais bon, voilà, morale de l'histoire, enfin, fin de l'histoire, il se roule une pelle à l'avant du bateau. Voilà.
Oh yeah! Et il y a cette espèce d'allégorie du confinement où, tu vois, ils sont à la proue, ils sont libres et tout. C'est moi quand j'allais à la fenêtre après 8 heures de travail.
C'est ça, à 20 heures pour applaudir.
Non. Voilà, pour applaudir les soignants. Bon, on va pas vous garder plus longtemps, on enchaîne sur la scène un peu.
C'est tellement culte toutes ces scènes en fait, le fameux genre dessine-moi comme une. Nous on a dessine-moi un mouton Saint-Exupéry, le petit prince. Les Américains ils ont dessine-moi like your French girl, et excusez-moi, c'est beaucoup plus. Voilà, wink wink, comme on dit. Et,
désolée, mais cette scène, de Saint-Exupéry.
Grave. James Cameron, elle a pris ta place. Non, mais en vrai, cette scène, pareil, je la trouve hyper touchante parce que. Donc, c'est la scène où il la dessine nue avec le cœur de l'océan. Souvenez-vous, le collier qu'on cherche. Là, c'est le moment, tu sais, on le voit pas, mais en fait, t'as le capitaine du bateau qui écoute l'histoire et qui est là. Allez, elle va enfin nous dire où elle l'a mis. Et elle est là. Et donc, il m'a dessiné.
Mais c'est vrai qu'on le dit pas, mais il y a des petits flash-forward de Rose qui raconte à 4 à 4 ans. En fait, tout le monde s'en fout. Enfin, au départ, l'équipe, elle est un peu genre, oh là là, oui, bon, l'histoire et tout. Et à ce moment-là, ils sont tous en face d'elle et ils sont genre, oh, ils sont emoji cœur-cœur.
Et d'ailleurs, j'aime bien ce qu'elle dit. Là, en effet, il y a des espèces de... Quand tu la revois vieille, elle dit, ça a été le moment le plus érotique de ma vie. Et ouais. C'est vrai que cette scène... Ouais, j'aime trop parce que genre... Et c'est encore une fois, c'est ouf pour un drame, enfin un film d'amour, où c'est vraiment la fille qui est dans le pouvoir, c'est elle qui se met nue, c'est elle qui lui dit « c'est toi ouais. qui me dessine ». Et lui, il est hyper... En vrai, lui, il est gêné. Hein. Enfin, il est gêné, il est in love.
Déjà, c'est vraiment un moment charnière dans l'histoire, cet enchaînement de scènes, donc la proue, puis le dessin, puis après on verra la scène de sexe. C'est la première véritable intimité que Jack et Rose ont dans le bateau qui est rempli de monde. Parce qu'on parle d'un huis clos, mais on parle pas d'un huis clos sartre-esque où il y a 3-4 personnes. Non, on parle d'un huis clos où il y en a, je crois, 2000. Je crois qu'il y a 2000 personnes à bord du Titan.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a genre 2400 personnes, un truc comme ça.
Voilà. Donc, dans la réalisation, par exemple, on a des plans rapprochés, un peu comme pendant la fête, mais il y a beaucoup de plans de leurs yeux, etc. Bon, évidemment, c'est un choix aussi pour pas montrer le corps de Kate Winslet nue, même si on a des petits plans sur ses seins et où Jack est complètement fou quand il dessine, il est genre « Ouh là là, je dessine un sein !» Vraiment, moi, en troisième. Et en effet, dans cette scène, on a un changement de position de dominant-dominé. Donc, Jack change de place avec Rose et c'est elle qui devient full power. Et ce que je trouve fou, c'est qu'elle prend tout son pouvoir lorsqu'elle enlève ses vêtements, lorsqu'elle enlève les conventions sociales qui lui pèsent et qu'elle est nue et qu'il n'y a vraiment que elle, genre la personne, Rose, pas Rose, fille de machin, épouse de machin. Et lui, il est complètement intimidé, évidemment, devant cette femme qui est... Enfin, c'est... Même moi, franchement, j'avais chaud. Enfin, évidemment, j'avais chaud. Pourquoi même ? Et je trouve que on voit à ce moment-là que leur rencontre est incroyable parce qu'il leur apprend chacun à être un peu plus pondéré. Donc, par exemple, lui, il apprend à être moins arrogant. Et là, il apprend à se taire. Genre, à être genre, ah oui, ok, d'accord. Voilà. Et au contraire, j'allais dire Kate Rose apprend à prendre confiance en elle et genre à se dire, je suis une personne, pas la personne de quelqu'un. Et en fait, je vaux bien ça.
Mais d'ailleurs, ça lui monte légèrement à la tête parce que du coup, la meuf, elle est là. Ok, et ben maintenant, je suis une femme forte, une femme libre. Je plaque mon fiancé Cal.
Oui, c'est
et du coup, pour le plaquer, en gros, elle enferme le dessin. En fait, elle met le dessin d'elle nue dans le coffre-fort de Cal avec le collier. Déjà, j'ai envie de dire, mais garde le dessin, il est trop beau, mais ok. Et elle écrit une phrase que j'ai trouvée trop stylée. Mais qu'on verra plus tard, mais c'est, tu sais, elle écrit sur un mot, comme ça tu pourras me garder enfermée, tu pourras nous garder tous les deux enfermés dans ton coffre-fort, tu vois. Et donc elle s'en va, mais clairement, on était toujours dans un huis clos quand même.
Bah, c'est ça, genre Cal, il dit, après il quitte les lieux et que Cal revient à l'appartement, il dit, mais c'est un bateau, elle peut pas être à 600 endroits différents, genre, bah non, évidemment, donc ouais. Tu vas la retrouver, et c'est ce qui se passe après. Là, c'est une course-poursuite. Bah dans un huis clos. J'arrête pas de dire huis clos, mais je vous jure,
c'est un bateau. D'ailleurs, t'as très justement fait remarquer les tenues de Rose et qu'elle se sent libre quand elle est nue, tout ça. Et là, je sais pas si tu te souviens, sa robe qu'elle porte, qui est trop belle, qui est beaucoup plus... Là, il n'y a plus de corset.
C'est comme une nuisette un peu, genre, mais longue.
Ouais. Et genre là, elle est libre, quoi. Et en effet, ils font la course poursuite avec le majordome. Ils sont en mode, genre, vraiment comme des enfants, les gars.
Ah ouais. Mais c'est très mignon, je trouve, cette scène. Et en plus, je trouve que c'est une des scènes esthétiquement les plus jolies. Quand il court dans la salle des machines, il y a le pan de sa robe blanche comparé à tous les fourneaux rouges de feu qui flambent derrière. Je trouve que c'est magnifique. Encore une fois, bien sûr, c'est simple, mais c'est si bien fait. Mais c'est, en vrai, les gars, Titanic, c'est comme un gratin dauphinois. Il n'y a rien de plus simple. Mais quand c'est bien fait, ça fait plaisir.
Et surtout parce que là, on arrive à la scène culte de la voiture. avec la fameuse phrase aussi culte où il lui dit où est-ce qu'on va et elle lui dit vers les étoiles. Deux minutes après, ils y vont aux étoiles.
On va vers le cul, hein, clairement.
Let's go. Et d'ailleurs, il y a à nouveau le thème musical de Titanic qu'on a vu la première fois qu'ils se sont vus, la première fois qu'ils se sont embrassés. Et là, ça y est, la première fois qu'ils couchent ensemble.
Ouais.
Et voilà, ils sont dans leur petit. Là, en fait, c'est même plus. En fait, le mot huis clos, on l'utilise depuis tout à l'heure, mais un huis clos, c'est pas toujours quelque chose de positif. C'est un truc un peu étouffant, je trouve, le sous-entendu. Alors que là, ils sont dans leur voiture, ils sont dans un huis clos de la voiture au sein même du huis clos, mais ils vivent leur best vie. Genre, ils ont aucun problème à être dans leur bulle, quoi.
Mais justement, la symbolique de ce moment-là, elle est tellement intelligente. Ils sont dans un endroit exigu, c'est tout petit, il fait très chaud, il y a beaucoup de buée. Mais ils sont dans quoi? Ils sont dans une voiture. Et une voiture, ça sert à quoi? Ça sert à sortir d'un endroit. Enfin, excusez-moi, hein, mais j'ai payé 42 000 balles pour voir pour sortir ces analyses, mais...
Non, mais c'est vrai, la voiture, c'est magnifique. Donc là, en fait, c'est très bizarre ce moment du film parce que tu vis leur best vie. C'est trop beau. Et là, qu'est-ce qui se passe en parallèle juste après? On rencontre la star du film.
Alors, juste avant de rencontrer notre star, Tony Iceberg, je reviens sur cette histoire de time lock. Le time lock se rompt par un pacte verbal puisque Rose dit à Jack: quand on arrive, je pars avec toi. J'ai quand même noté, bon, après on connaît l'histoire, MDR. Mais c'est important de dire que scénaristiquement, c'est le moment où elle se dit, en fait, ma vie n'est pas résumée à ce voyage en bateau et c'est plus une deadline quand j'arrive, c'est le début de ma nouvelle vie.
C'est vrai, mais malheureusement, comme tu l'as bien dit, ça ne va pas durer très longtemps. Puisque, en fait, l'iceberg, c'est rigolo parce qu'en fait, l'iceberg, c'est vraiment la représentation physique de quelque chose qui va détruire le huis clos physiquement, parce qu'en fait ça détruit le bateau, bon, vous connaissez tous, ils se prennent l'iceberg parce qu'ils avaient voulu faire les malins. On est encore une fois podcast nautique, tu sais, capitaine, ils savaient qu'on lui allait trop vite. Ils se prennent, et d'ailleurs je trouve que c'est intéressant, les premiers qu'on voit mourir en fait c'est les ouvriers dans la salle des machines.
Ouais.
Et c'est encore une fois
la lutte des classes, hein.
Ouais, bravo James Cameron, parce que c'est fort.
Et bravo, nous on adore. On a un nouveau time lock. Quand un time lock se termine, un nouveau commence, puisque l'ingénieur qui a conçu le bateau dit quoi qu'on fasse, le Titanic coulera dans moins de 2 heures. Donc là, on est genre, écoutez, nous c'était pas prévu le forfait plongée sous-marine avec. Il y a quoi? Je pense qu'il y a genre des belugas et tout dans cet endroit.
C'est ce qu'il dit Jack d'ailleurs après quand il est dans l'eau froide. Il dit: je sais pas toi, mais je vais écrire une lettre pour me plaindre aux gens qui possèdent. Et j'étais là, putain, il est si drôle. Mais là, c'est le moment où Rose comprend qu'il y a un problème et elle va prévenir sa mère et Cal. Elle est vraiment très gentille, hein. Elle se remet dans la gueule du loup, elle se remet dans le... Voilà.
Bah encore une fois, c'est le trouble du huis clos, elle est si proche, enfin, t'es obligée, quoi, c'est terrible.
Et malheureusement, dans cette scène, en fait, pour vous la faire courte, on fait croire que Jack a volé le cœur de l'océan et on l'enferme dans une pièce, un huis clos, dans un huis clos, attention.
À chaque fois qu'on dit huis clos.
Et elle est en mode « Oh zut, c'était peut-être un voleur, mais ça lui paraît bizarre. » Et
Oh zut.
C'est ça. Mais elle quand même se rend compte qu'il y a un problème, quoi.
Qu'il y a un problème, ils montent sur le pont avec Cal pour aller dans un bateau le plus vite possible. Et en fait, elle croise l'ingénieur, qui est son poteau un peu. Et elle lui dit, vous vous rappelez ce que je dis sur les canaux? Montez dans un canot maintenant, parce que sinon vous allez décéder. Donc elle est genre, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Il y a la pression et tout. L'orchestre se met à jouer en parallèle, très important. Mm-hmm. L'orchestre du Titanic, c'était une sorte vraie, à jouer pendant que les gens montaient dans les canaux de sauvetage ou que d'autres se noyaient.
J'adore, mais c'est vraiment des gros drama queen dans Titanic, hein?
Oui, non, mais enfin bon, écoute, ça c'est la musique ou la vie. Quand on est zikos, tu vois, on comprend. C'est pas vrai, pas du tout. Je joue de la guitare mal. On a la réalisation de Rose devant ce canot avec toutes ces femmes de la haute société dedans, alors que la troisième classe est en train de paniquer au quatrième pont et d'être genre, oh mon dieu, mais nous on n'a pas le droit de sortir et tout. C'est les premières classes qui embarquent en premier. Elle décide de retourner vers Jack et Cal, il lui dit mais vous êtes quoi, vous êtes sa putain? Et il lui dit je préfère être sa putain que votre femme. Et elle lui crache dessus. J'étais genre, oh my god.
Grave. Alors là, c'est clairement le moment d'empouvoirment où on est toutes à fond et
jouissif.
Clairement. Et du coup, elle traverse tout le bateau pour en fait chercher Jake et le retrouver. Et elle le trouve du coup dans une salle avec... Oui, depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à prononcer le nom de Léo, je suis désolée. Sorry pour vos oreilles. Mais du coup, on a le petit huis clos stressant de Jack qui est coincé avec de l'eau.
Ce qu'il faut aussi signifier, c'est qu'un huis clos, ça grandit tout, tout prend une déproportion énorme. On va revenir sur cet amour de camping, mais la personne dont vous tombez amoureuse au camping, cette personne-là, vous voulez ses enfants. Écoutez-moi bien, c'est vrai. Parce que vous vous imaginez, genre, oh mon Dieu, vous vivez 3 jours d'idylle incroyable et c'est plus fort que tout ce que vous avez vécu chez vous. C'est normal. C'est le fait que ce soit dans un lieu fermé et dans un laps de temps défini.
C'est vrai. Je me rends compte qu'en fait, j'ai pas eu assez d'amour de camping pour avoir de...
Ah mais j'en ai pas eu du tout, t'as vu ma gueule ? Bon, j'ai lu des livres.
Parce que je suis là, je connais pas. Mais bon, nous, on revient dans notre amour de bateau. Elle va chercher Jack dans la pièce. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que les classes sociales pauvres sont littéralement enfermées et retenues en bas du bateau. Parce qu'en fait, on attend d'abord que les riches montent dans les canaux. Donc c'est vraiment c'est horrible quoi. Enfin, ils vont tous mourir. Mais là, je sais plus. Là, ça va très vite. Elle arrive à libérer Jack d'abord.
Et donc c'est le moment de sauver leur peau, sauf que ça va pas être facile puisque il y a plus de bateau, donc c'est un petit peu compliqué, comme l'ingénieur l'avait prédit. Donc il faut trouver une solution, et la solution c'est le sacrifice de Jack, aussi un trope très récurrent dans les rom-coms, dans les drames romantiques, on va dire plutôt, puisque le sacrifice est quand même un peu triste. Pour que Rose monte dans un bateau, il la force à monter dans un bateau avec Cal à ses côtés. Donc Cal revient, pourquoi ? On est dans un huis clos. Mmh. Évidemment, le mec va toujours être dans les pattes des autres. Il est indécrottable. Elle finit par refuser de monter dans le bateau parce qu'elle croise le regard de Jack. Elle est genre, je peux pas le laisser. Et elle remonte à bord du bateau, elle fait chier tout le monde. Le bateau manque de se renverser. Le canot de sauvetage.
Grave. Elle fait saouler tout le monde, mais en même temps, je trouve cette scène tellement belle quand elle remonte et qu'elle se retrouve Jack et qu'il lui dit... Il y a cette scène déchirante, mais bon, c'est vraiment des bons acteurs, je trouve, parce qu'il est en mode « Mais pourquoi t'as fait ça? T'es tellement bête !» Et en même temps, il s'embrasse et toi, t'es là genre « Oh my God !» Et tu le vis à fond, quoi. Enfin, moi, j'étais in love, quoi. Et moi, là, je sais pas toi, mais moi, c'est le moment que j'ai appelé le moment drama queen dans mes notes, parce qu'on a une série de tableaux de comment les gens se comportent dans le bateau. Tu as le concepteur du bateau qui est debout, l'horloge qui dit rien en mode genre c'est le drame, on va tous mourir. T'as les musiciens qui continuent à jouer de la musique en mode on va tous mourir, faisons-le en musique. Et t'es là, dis donc, c'est intense ce qui se passe.
Oui, il y a une mère qui couche ses enfants et qui dit genre et là, dormez comme ça, vous allez mourir ça, tranquillement.
Ça, c'est clairement la scène je sais pas toi, mais moi, c'est la scène qui me fait le plus chialer dans Titanic. C'est la scène où t'as les vieux qui sont... Enfin, en gros, on voit des gens qui comprennent qu'ils vont mourir et qui abandonnent, en fait, et qui, en fait, sont dans leur chambre et il y a l'eau qui monte et t'as la musique et tout. Pouh, rien que d'en parler, j'ai des petits frissons, je suis pas trop dans le bien, quoi.
Et l'orchestre joue « Plus près de toi, mon Dieu » au violon. Et il faut savoir que c'était un truc que je voulais absolument apprendre à jouer quand je faisais du violon quand j'étais petite. Mais c'est très difficile. Donc je ne l'ai pas fait. En plus, je suis pas du tout religieuse ou croyante, hein, mais j'étais genre « C'est la musique triste dans Titanic
». Clairement, comment foutre l'ambiance en soirée ? Appelez tous Clara avec son violon.
Ah bah franchement, vous avez un violon, les gens vous demandent une chose, c'est « Pirates des Caraïbes hein. ».
J'avoue. Bon, tu me la feras. Mais restons, reconcentrons-nous, parce que là, on a encore des petites clabots dramatiques. On a le riche qui boit son brandy avec l'eau qui monte. Encore une fois, que des drama queens dans ce bateau. Et là, on arrive, donc on a eu tous ces petits tableaux. Et après, là, ça va hyper vite. C'est la scène, en fait, où il y a, je crois, carrément le bout de l'avant du bateau s'est fracturé. Bientôt, enfin, ça va tomber, quoi. Ça part en couille, là, vraiment.
Le Titanic a commencé à couler par l'avant. Et le poids de l'eau a fait pencher l'avant, sauf que le bateau est bien trop lourd. Donc il se casse au milieu, l'avant coule et l'arrière bascule. Et la poupe se retrouve à la verticale. et le bateau s'enfonce et c'est comme ça que il finit par couler complètement.
On est vraiment, mais c'est vraiment podcast nautique aujourd'hui. mais du coup, encore une fois, là, il y a une petite scène aussi qui m'a fait trop rire, qui est que du coup, tout le monde essaie de marcher pour aller du côté de la poupe. Et il y en a un qui parle et qui fait un truc religieux, là, je marche dans la vallée de l'ombre. Et oui. T'as Jack derrière qui est là, tu peux pas marcher plus vite, s'il te plaît.
Ah, c'est aussi le moment où Fabrizio meurt et c'est très triste.
Bon, ça, je l'ai même pas noté dans mes notes parce que je peux pas. Mais c'est vrai que c'est un moment où, en fait, au sein de ce huis clos, même quand le huis clos est en train de se rompre, les rôles sont hyper définis, en fait. T'as les musiciens, ouais. Le prêtre, le capitaine, les policiers du bateau, entre guillemets, qui régulent, qui montent dans les canaux. C'est vraiment hyper précis. J'ai aussi noté, rien à voir, mais quelle est la marque de l'eyeliner de Rose ? Parce que la meuf, elle a été dans l'eau, elle a couru, elle a couché avec ce mec et tout. Maquillage on point. Pour vivre du coup sa best vie d'attraction Disney, parce que c'est le moment où le bateau culbute en fait, en quelque sorte.
Voilà, ils vont finir par couler avec le bateau, ils se retrouvent dans l'eau, littéralement j'ai écrit bomba plouf et la chiale, puisque ils se retrouvent dans l'eau et Rose doit monter sur un, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est une porte d'armoire?
Oui, je crois.
Moi, je pense que c'est ça.
Ouais, je crois que c'est un gros bout de bois un peu décoré. Là, voilà. On sait déjà, quand on évoque cette porte, on sait toujours ce qui se passe. Tout le monde est là. Il y avait de la place sur la... Non, déjà, arrêtez, il n'y en avait pas, on le sait. Parce que la question, c'est pas que ça se retourne, c'est qu'ils sont trop lourds et ça va mettre la... Enfin bref,
sur le sujet. Et en plus de ça, j'ai récemment lu un truc qui disait que Jack est sans doute mal nourri. Elle souffre de malnutrition du fait qu'il ne bouffe pas et qu'il dort au quatrième pont où il y a des rats, etc. Donc de toute manière, son système immunitaire n'aurait pas aussi bien résisté au froid que celui de Rose qui passe ses journées à bouffer comme une grosse richouse.
Voilà, mais de toute façon, il devait mourir, c'est tout. Donc arrêtez de nous dire il y avait de la place, je ne sais pas. Ce qui est beau dans ce film, c'est que grâce à lui, Rose s'émancipe. Et même quand il meurt, elle vit à travers, enfin, elle vit pour lui, elle fait vivre l'esprit de Jack en elle, quoi. Bref, on s'égare. Tout ça pour dire qu'ils sont coincés dans l'eau. Moi, j'ai aussi une autre question. Comment le diamant? Ah oui, on a oublié de le préciser. Oh mon dieu, depuis tout à l'heure, on s'emballe. Elle a récupéré le manteau de Cal.
Ah oui.
À un moment, il lui a donné parce qu'elle avait froid. Et dans le manteau, dans la poche, il y avait le diamant. À ce moment-là, Rose ne le sait pas. Mais nous, on le sait en tant que spectateur. Et moi, je me demande comment est-ce que le diamant a tenu tout ce truc? Parce qu'elle a couru partout et tout. Comment il n'est pas allé déjà au bout de l'océan? Eh, tout ça, c'est un film, c'est fait pour, mais...
Mais moi, je me dis que si j'ai réussi à pas perdre des clés dans des poches de manteau comme ça pendant des années, finalement, un diamant, bon...
Bon, en tout cas, à ce moment-là, elle ne sait pas qu'il y a un diamant dans sa poche. Elle est sur un bout de bois dans l'océan Atlantique à, je sais pas, 3 degrés. Tout le monde est en train de mourir de froid. Et en fait, là, il y a cette scène où on demande si un bateau va revenir les canots de sauvetage qui ont réussi à sortir... Est-ce qu'ils vont venir chercher les rescapés? À ce moment-là aussi, ciel étoilé de dingue. Je ne sais pas si tu as vu, j'étais là. Mmh. Ils sont en train de mourir, mais meilleure scène quand même. Hein. Tu vois hyper bien la Voie lactée.
Il y a donc un bateau qui finit par venir les chercher et en fait Rose se rend compte Jack qui est décédé quoi, donc elle le laisse partir dans l'eau en lui disant je lâcherai jamais, et c'est cette métaphore là, elle le lâche
parce
en
que disant, je lâcherai jamais. Parce que juste avant on l'a fait courte, mais il lui a refait une super déclaration et il lui a fait promettre genre tu vas jamais lâcher, tu vas continuer, tu vas vivre,
tu vas avoir des enfants et tout.
Et elle lui dit, d'ailleurs c'est trop mignon aussi, elle lui dit je t'aime, ce qu'elle avait été incapable de faire pour à Cal. Et c'est vraiment, c'est beau quoi. Et après, en gros en fait, lui, ce qu'il lui demande clairement, c'est de survivre au huis clos en fait. Il lui dit non, tu vas pas mourir là. Et en effet, elle survit. C'est quand même assez miraculeux.
Voilà, elle trouve un sifflet, donc elle arrive à faire du bruit, à signaler sa position, et le mec vient la chercher.
D'ailleurs, cette scène est hyper belle avec les cadavres. Enfin, tu sais, le bateau qui passe dans les cadavres et tout, c'est hyper glauque, mais c'est vraiment du grand cinéma quand même, Titanic. Hein.
Ils finissent par arriver à New York, enfin. Et en fait, elle voit la Statue de la Liberté. Encore une fois, c'est fait avec des sabots gigantesques de la taille de moi. Mais ça fonctionne. La Statue de la Liberté, ça va être quoi? Bah, ça va être la liberté pour Rose. Puisque pendant qu'ils recensent les personnes arrivées à New York, à Ellis Island... au lieu de dire qu'elle s'appelle Rose DeWitt, donc qui est son nom de base, elle dit qu'elle s'appelle Rose Dawson, qui est le nom de famille de Jack. Et donc, c'est là que Rose débute sa vie à vivre.
C'est là, c'est le symbole. Elle prend le nom de Jack qui signifiait la liberté, en fait. Et là, on est tous à fond. Et elle dit cette phrase, la petite vieille, dans son storytelling que j'aime trop, qui est « Il m'a sauvée de toutes les manières que l'on peut être sauvée, dont on peut être sauvée. »
Oui.
Et là, tu pleures. Là, à ce moment-là, j'étais en train de regarder Titanic, là, pour le podcast, avec mon cousin et mon père. Et mon cousin de 13 ans était là. Tu crois qu'il y a encore des cadavres au fond de l'eau ? Et mon père, il était là. Noé, quand on regarde Titanic, à ce moment-là, on pleure, d'accord ?
Non ! Noé, il est trop pragmatique.
Mais du coup, voilà, on revient, on sort du Titanic, on revient sur le bateau, on retrouve la petite vieille qui a terminé son histoire, c'est trop beau. Mais on ne sait toujours pas. Où est le diamant ?
Et en fait, le je crois que le chercheur lui dit, mais du coup, vous avez jamais entendu parler de Jack ? Qu'est-ce qui s'est passé et tout après ? Et en fait, elle dit, bah non, il n'était pas supposé être sur le bateau. C'est comme si ça n'avait jamais existé, etc. Donc bon, personne demande pour le diamant parce que c'est un peu coton. Une nana qui vient de te dire que son plus grand amour est décédé.
Et d'ailleurs, après, il y a une espèce de scène de rédemption un peu nulle avec le capitaine où il dit genre,
oui, avec
ces années, j'étais obsédée par le diamant, mais en fait, j'avais jamais compris. Mais compris quoi ? On s'en fout, bien sûr que tu voulais le diamant, bref. Mais nous, ça, on s'en fout, parce que, en fait, le diamant, du coup, c'était Rose qui l'avait dans sa poche. On a la fameuse scène où Rose vieille le jette dans l'eau, et c'est le symbole, elle laisse partir. Elle laisse partir, et en fait, juste après, elle lâche le dernier truc qui le liait au Titanic, et ensuite, elle meurt dans son sommeil. Tout ce qui est beau, en tout cas, c'est qu'elle revoit Jack dans Titanic. Et d'ailleurs, c'est rigolo, elle le revoit avec dans la scène, tu sais, où il est en costard, mais elle le voit avec ses habits normaux. Parce que c'est en mode, c'était le vrai Jack qu'elle aimait. C'était pas celui qui faisait le riche, c'était le vrai homme qu'il était. Enfin bref, moi, à ce moment-là, je suis à fond, je suis amoureuse. Leonardo, si tu es là, si tu m'entends, appelle-moi.
Vous allez le retrouver ? Vous voulez être la putain d'un rat d'égout ?
Non, attendez !
Je préfère être sa putain que votre femme.
Bon, du coup, maintenant qu'on a fini le film, on a beaucoup parlé. Je pense que c'est l'un des épisodes où on a réussi le plus à parler du trope dedans, le huis clos. Ouais. Donc, on va pas trop s'attarder sur la conclusion parce que l'épisode va déjà être assez long vu que c'est quand même un film qui dure 3 heures. Mais je pense que vous avez bien compris. On est toutes les deux. On aime beaucoup ce film. Et c'est vrai que là, on a pris la trope du huis clos. Moi, j'aime bien, en fait, c'est parfois avec des gros sabots, mais c'est très direct, en fait. C'est le huis clos, il est symbolisé par le bateau en lui-même. Mais après, c'est aussi le huis clos des conventions sociales, les huis clos de la liberté, tout ça, etc. Et en fait, les acteurs ont tellement une alchimie de ouf. T'as tellement envie d'y croire. Leonardo DiCaprio est tellement beau qu'en fait, ça fonctionne. Et vraiment, je trouve que le film marche super bien sur ça.
C'est en fait, mais j'ai rien à dire dans cet épisode. Je vous jure, j'ai rien à dire, les potes. J'ai tout donné pendant l'épisode. Pourquoi ça marche ? Bah parce que c'est fait pour marcher. Il y a tout qui est fait pour marcher. L'arène est faite pour être un huis clos. Si on est un physiquement. Les conventions sociales sont faites pour être un huis clos, puisque t'as vraiment cette espèce de truc des riches qui est très fermé, très jet set, on va dire. Ça marche parce que y a des acteurs qui sont super et qui savent relayer des émotions sur des visages et pas que dans des phrases qui disent oh non, je suis triste et je suis emprisonnée dans ma propre vie. Ça marche parce qu'il y a des effets de mise en scène comme le truc du corset ou des choses comme ça qui, oui, bon, évidemment que c'est fait avec les pieds dans le plat, mais bon, ça marche parce que c'est extrêmement bien réalisé, en fait.
Ouais.
Pour moi, c'est tout simple. C'est que vraiment, le mec a pensé son truc de A à Z. Je dis le mec en mode, c'est mon voisin de palier, James Cameron.
Enfin, si c'est ton voisin de palier, dis-lui que Avatar, c'était vraiment nul, s'il te plaît.
Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. James Cameron n'a pas fait que des merveilles. Hein. Parce que pour moi, par exemple, Titanic, pourquoi ça fonctionne avec les gros sabots ? Parce que c'est une histoire d'amour. Les histoires d'amour, l'amour, c'est l'excès. Donc de toute manière, ça fonctionne. Le problème, c'est si on met autant de gros sabots dans d'autres productions, comme par exemple Avatar, bah là, ça marche pas, en fait. Mais bon, c'est un autre débat. On parle pas du tout de,
voilà.
De ça, là.
Mais je suis complètement d'accord. Et aussi, on oublie, mais un truc qui a très bien marché avec Titanic, dont on n'a pas assez parlé dans le film, c'est le générique, Céline Dion. Je pense, oh là là, la chanson la plus détestée de tous les gens qui tiennent un karaoké.
Moi, j'adore.
Dès que ça commence, tout le monde hurle et tout. Enfin, bref. Mais ça fonctionne super bien. Donc, même si c'est gros, même si le film est un peu long, nous, on adhère.
Et cet épisode est terminé, mais on va vous proposer une nouvelle petite rubrique pour fêter les 1 an du podcast. Incroyable, quel bel anniversaire. J'ai proposé à Flore, et heureusement, elle a dit oui, sinon j'aurais été très triste, parce que je trouve que c'est une bonne idée.
Non mais Clara a toujours des bonnes idées.
De partager une histoire d'amour qui nous avait marqué récemment. Donc c'est pas forcément une rom-com, je pense dans le sens beaucoup plus large du terme, donc par exemple si on a lu un livre ou vu une série, ou quelque chose comme ça. Et moi je voulais vous dire qu'en ce moment, je regarde la série The Office dans l'ordre chronologique, ce que je n'avais jamais fait. J'avais vu quelques épisodes par-ci par-là avec mes frères et tout. Et là je la regarde dans l'ordre chronologique et en fait c'est une sitcom, c'est très rigolo, mais il y a une histoire d'amour, il y en a plusieurs au sein de cette sitcom, et je trouve que l'histoire d'amour des personnages de Jim et Pam est extrêmement bien écrite et est extrêmement tendre dans pourtant une sitcom qui est relativement vieille et qui joue beaucoup sur le second degré et le fait d'être très embarrassé pour les personnages, et eux ils arrivent vraiment à avoir leur petit lot de scènes tendres et trop mignonnes, et du coup voilà, si vous voulez une petite histoire d'amour feel good, bon, il faut aimer The Office, mais je vous conseille celle de Jim et Pam.
Et moi, la petite histoire d'amour que je vous conseille, alors c'est pas du tout dans une sitcom, c'est dans un livre très dramatique, donc deux salles, deux ambiances. C'est un livre qui s'appelle A Little Life, en français je crois que ça s'appelle Une petite vie ou une vie simple, qui a été écrit par, j'ai le nom, Ania Yanagihara. Et ça décrit, je veux pas spoiler, en gros c'est l'histoire de quatre amis d'université et de leur vie sur 20 ans. Et il va y avoir une histoire d'amour pour un protagoniste. Et c'est vraiment un très beau livre sur les relations humaines. C'est un livre très très triste, un peu dur à lire. Donc si vous êtes un peu sensible, je vous le conseille pas forcément. Personnellement, j'ai jamais autant pleuré devant un livre. Mais c'est vraiment un beau livre sur qu'est-ce que c'est l'amour. Autant l'amour platonique, familial, romantique. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et c'est vraiment super joli. Si vous avez lu ce livre, s'il vous plaît, envoyez un message à l'Instagram de RomComment. Parce que j'ai besoin d'en parler avec des gens qui l'ont lu. Voilà, merci s'il vous plaît. Pensez à moi.
Et voilà, ça clôt l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. On va pas avoir un rythme de publication normal, mensuel, comme on a d'habitude, parce que bah encore une fois, Flore n'habite plus pour l'instant à Paris, donc c'est un petit peu compliqué. On va enregistrer un épisode en présentiel à la fin du mois de juin, donc normalement vous l'aurez pour le mois de juillet. Ça, c'est
on
sûr.
Va essayer. Normalement, ça devrait être bon, mais on va essayer, voilà, de vous envoyer parce que vous nous avez manqué.
Ça m'a fait très plaisir de retrouver le micro. Et surtout, si vous êtes abonné à notre Instagram et que vous nous envoyez de l'amour, merci, merci beaucoup. Oui. Parce que ça nous fait toujours très plaisir. Et en fait, on s'envoie des WhatsApp audio de nous en train de hurler dès qu'on reçoit un petit message gentil oui. sur l'Insta, parce que ça nous touche vraiment vous beaucoup. Faites. C'est quelque chose qu'on fait pour se divertir, évidemment. Mais c'est toujours sympa d'avoir un retour sur quelque chose qu'on a produit. Voilà.
Oui, merci beaucoup. Et si vous avez des retours, des envies de films, de tropes, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Et sur ce, Clara, j'ai envie de te dire à très vite.
Bah écoute, au revoir Flore.
Bisous.